C'est pas sorcière. 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 C'est pas sorcière.
Coucou. Coucou. Bienvenue dans C'est pas sorcière, le podcast qui explore la sorcellerie. Je suis Louise et dans cet épisode, je suis rejointe par Jaïlis pour parler de la sorcière dans le roman Cotopora. Vous avez peut-être déjà pu constater par notre épisode hors série bibliothèque ou par nos nombreuses recommandations de livres en fin d'épisode, les livres avec les sorcières, on adore ça. Aussi, quand Jaïlis m'a proposé de participer à un épisode sur le sujet, j'étais ravie. Elle réalise une thèse sur les usages de la figure de la sorcière dans le roman de 1960 à nos jours, en explorant des romans historiques, de la fantasy, de la science-fiction, et comme si c'était pas assez, elle le fait aussi avec des romans français, anglais, espagnols. Elle fait également partie du Laboratoire des Imaginaires, qui est une association de chercheurs mettant en avant les recherches sur les cultures de l'imaginaire. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite vivement à aller les rechercher sur Internet et consulter un petit peu tout ce qu'ils font. Donc, après cette présentation, je pense que vous pouvez conclure avec moi que Jaïlis, c'est la personne à côté de qui vous voulez être assis en soirée pour pouvoir discuter toute la nuit, puisqu'elle est passionnante. Donc, bienvenue, merci à toi d'être là.
Bonjour à toutes et tous, merci à toi Louise pour l'invitation et pour cette belle présentation.
Oh. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te poser une question que je pose à tous les invités. Est-ce qu'il y a une sorcière, imaginaire ou historique, que tu affectionnes particulièrement ?
Je pense que c'est la question la plus difficile que tu puisses poser de tout le podcast et de l'histoire du podcast avec tes invités. Donc j'ai beaucoup, enfin on a triché et j'ai réfléchi pour pouvoir répondre. Et donc il y a beaucoup de sorcières que j'aime bien sûr, que ce soit des sorcières historiques ou imaginaires, mais je pense que mon cœur penche très très fortement vers Maeve, qui est une sorcière qui apparaît dans la duologie des Seigneurs de Brienne et les Révoltés de Brienne d'Estelle Faye. Donc il y a une première recommandation de lecture pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu. Ce sont deux super romans, mais je n'en dis pas plus pour ne pas divulgâcher. Et donc, Maeve, c'est un de mes personnages de sorcière préférés parce que, contrairement à d'autres sorcières de fiction, elle ne représente pas une figure de sorcière qui soit surpuissante et capable de tout. Et elle ne représente pas non plus une sorcière qui serait sexualisée. Et elle maîtrise un pouvoir assez étonnant, à savoir le pouvoir du sel. Et j'avais prévu ici de vous lire la petite présentation des pouvoirs de Maeve. Donc, c'est dans les Seigneurs de Brienne, car Maeve était une Morgaine. Elle maîtrisait les pouvoirs du sel, ce qui, concrètement, signifiait qu'elle extrayait par un simple toucher le sel présent dans l'océan et sur les rivages. Et si elle se concentrait, elle réussissait à invoquer à partir de rien des poignées de sel. Certes, on voyait souvent plus impressionnant, ou plus utile, parmi les Morgaines. Lantane, pour n'évoquer qu'elle, possédait un don de double vue, et elle commandait aux vagues et aux vents. Et donc, en plus de ce pouvoir du sel, Maeve représente l'indépendance et elle a une force de volonté qui est assez incroyable dans le roman, puisque, toujours sans divulgâcher, elle est capable de choisir le devoir face à ses obligations familiales et à l'amour qu'elle éprouve pour Lantane. Donc, voilà pour ma sorcière préférée.
Waouh, c'est trop bien. J'ai lu juste un seul roman de cette autrice et j'avais adoré. Et je savais pas, elle en a écrit tellement, je savais pas vers quoi enchaîner, mais je crois que maintenant j'ai trouvé.
Et je te les recommande vraiment. J'adore cette plume, que ce soit dans Brienne ou dans d'autres récits. Et en plus de ça, c'est une personne qui est vraiment géniale.
Oui, j'avais acheté son roman à un événement où elle me l'avait dédicacé et elle avait pris le temps de discuter et tout, et adorable.
Donc raison de plus pour lire ses romans.
Voilà, et en plus elle est souvent présente sur des salons littéraires en France, donc si jamais vous avez l'occasion de la rencontrer, allez-y. Voilà, c'était un podcast de soutien à Estelle Faye.
Sachant qu'elle a déjà une belle commu.
Oui, c'est vrai.
Trop de fans de Spellfire.
Rentrons maintenant dans le vif du sujet, parce que aujourd'hui on va parler de la sorcière dans le roman contemporain, vu que c'est ton sujet de thèse. Et du coup, pourquoi ce sujet ? Comment tu es arrivée à travailler dessus ? comment on peut réussir à faire un sujet aussi formidable dans la recherche.
Merci déjà pour le compliment au sujet. Alors, niveau recherche, j'ai un parcours où les liens ne sont pas forcément évidents à faire. Dès mon master recherche à Paris 7, donc, je me suis spécialisée sur, sur les liens entre l'histoire et la fiction. Et donc, j'ai fait un premier mémoire de recherche sur la guerre civile au Liban dans les années 80 et sur l'Uchronie et le nazisme. Donc, rien à voir sur les sorcières. Et suite à mon master, j'ai commencé à chercher une direction de thèse en me disant que j'allais continuer sur l'Uchronie et le nazisme. Et finalement, en discutant avec ma directrice, déjà, je me suis rendu compte que j'avais peut-être besoin de changer un petit peu de sujet et qu'il y a des enjeux derrière de financement, etc., que je passe ici. Et donc, j'ai réfléchi. Je me suis dit, j'aime travailler sur des sujets qui me plaisent pour éviter de m'ennuyer ou de m'en dégoûter. Et une thèse, c'est minimum 3 ans. Donc, mieux vaut bien choisir aussi pour ces raisons-là. Et donc, je me suis dit, en fait, depuis que je sais lire, ce que j'aime lire, c'est des textes où il y a des sorcières. Donc, pourquoi pas une thèse sur les sorcières ?
Trop bien.
Et suite à ça, je me suis dit, je veux connaître les sorcières plus précisément en histoire pour pouvoir voir ce qu'on en garde dans le roman contemporain et ce qu'on modifie.
Il y a beaucoup en France de recherches qui sont faites sur la figure de la sorcière. Je ne sais pas si tu as cette réponse.
Alors, je ne dirais pas beaucoup, en tout cas pas à ma connaissance. Et moi, je regarde plutôt... Enfin, il y a des textes qui ont été écrits par des historiens ou des historiennes. Il y a justement l'essai de Mona Chollet en France, que tout le monde connaît, je pense, maintenant.
Oui.
Mais il y a aussi Guy Bechtel du côté des historiens. Et je crois que vous aviez parlé de la sorcière et l'Occident.
Possible. On parle de beaucoup de choses, alors je ne retiens pas tout.
C'est pour ça, en écoutant, je ne retiens pas tout non plus. J'essaye plutôt de retenir les références que je n'ai pas encore. Mais en littérature, il y a des articles sur certains romans précis, notamment sur Moitié Tuba de sorcière noire de Salem, dont on parlera tout à l'heure. Mais sous l'angle que j'ai choisi, pas à ma connaissance.
Ok. Toi, tu abordes la sorcière dans le roman contemporain. Question qui m'est venue sur ce sujet, c'est est-ce que c'est, enfin, j'imagine, vu que tu as ce prisme, c'est pas la même chose que la figure de sorcière en général. Il y a une spécificité aux sorcières dans le roman contemporain. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau?
Alors, c'est globalement une grande partie des enjeux de ma thèse. Donc, je n'ai pas
en 180 secondes, tu résumes.
Une thèse qui n'est pas encore écrite, c'est parti. Donc, pour essayer de faire court, je vais te répondre un peu comme une dissertation en oui, non, peut-être. Et en commençant par le nom. Donc, on a des sorcières avant le roman contemporain en littérature. Et donc, moi, mon objet d'étude, c'est entre 1965 et aujourd'hui, parce qu'il fallait bien mettre des bornes, pour des raisons de sinon j'ai beaucoup trop de livres. Même si on n'a jamais assez de livres à étudier, à un moment, il y en a trop. Et donc, j'ai pas énormément, pour l'instant, creusé du côté de ce qui s'est fait avant. Et donc, par contre, de ce que j'ai pu lire ou regarder dans d'autres médias, la représentation de la sorcière dans le roman contemporain n'est pas toujours novatrice, puisqu'on va avoir des recours à des sources historiques qui sont plus ou moins explicitées. On a certains auteurs ou autrices qui mettent en bibliographie des notices explicatives, enfin, qui mettent des bibliographies, pardon, ou des notices explicatives, notamment Stacy Halls dans Les Sorcières de Pendle, ou alors des personnes qui, comme Marie Scondé, partent de personnages historiques qui ont réellement existé, et c'est le cas notamment de Tituba. Donc, on a un matériau qui est déjà présent, qu'on trouve dans les représentations des démonologues, notamment dans le fameux Maleus Maleficarum, dont cette fois, je suis sûre, vous avez parlé avec Marion et que vous adorez.
Oui.
Et donc, c'est des représentations qui sont exploitées et qui, bah, par certains aspects, ne sont tout de même pas originales, étant donné qu'on les a déjà vues. Mais c'est aussi original dans le roman contemporain, au sens où tout ce qui va être autour de l'empouvoirment, ce sont des notions qui sont assez récentes. On commence dans les années 1970 avec la notion d'agentivité, donc le fait de pouvoir agir sur le monde, de le modifier, de modifier les autres, et aussi le travail de Starhawk. Et c'est des choses qui ne sont pas présentes avant dans le développement historique de la sorcière. Et c'est ce qui explique notamment Sylvia Federici dans Caliban et la sorcière. Et elle le dit qu'à l'origine, la création de la sorcière, c'est pour refuser le peu de pouvoir aux femmes qu'elles avaient à ce moment-là, notamment avec l'ouverture des universités au XVIe siècle, etc. Donc, de ce côté-là, oui, ça reste original, enfin, pour ces raisons et pour bien d'autres, bien sûr. Et donc, pour donner une réponse un petit peu plus nuancée et faire la synthèse du oui et du non, on ne se refait pas, on en arrive à des figures qui, je pense, sont plus ou moins hybrides. Puisque dans les sources historiques, de toute façon, et Guy Bechtel le dit notamment, on n'a pas de dignité dans la figure de la sorcière, à travers la sorcière qui peut se métamorphoser ou celle qui peut parler avec des personnes décédées, etc. Et donc, en fiction, on a, à mon avis, dans certains textes, des tentatives pour dépasser ce nœud, qui paraît insoluble au premier abord. Et donc, pour ne citer encore, vu qu'on est parti du principe qu'on ferait de la propagande autour d'Estelle Faye, pour ne citer qu'elle, même s'il y en a d'autres, je trouve que dans Les Seigneurs de Bohême, elle trouve le juste équilibre entre des propositions nouvelles et novatrices dans la représentation de la sorcière. Donc, je citais tout à l'heure Les pouvoirs du sel de Maeve, et également un équilibre avec l'histoire, puisqu'on a des mentions aux chasses aux sorcières, qui ont lieu aussi dans cet univers, et une mise à distance qui est réflexive de ces chasses aux sorcières.
Alors, vous
Voilà,
l'aurez
j'ai essayé de faire
compris, il
synthétique.
faudra prendre plein de notes sur tous les livres qui vont être cités, parce que votre bibliothèque va doubler de volume.
Pardon.
T'es pas vraiment désolée.
Non, pas vraiment, en effet.
Alors là, tu nous as fait un très beau résumé de ton sujet de thèse, mais pour aller un tout petit peu plus loin, mais je dis un tout petit peu parce que bah en un épisode on n'aura pas le temps d'aller très loin non plus. Tu m'as proposé quatre axes pour explorer un peu la figure de la sorcière dans le roman contemporain, avec à chaque fois un exemple de roman, parfois deux, pour illustrer les propos. Donc bah c'est parti, on peut commencer par le premier. Donc, le premier axe que tu as proposé, c'était la sorcière genderfluide, avec pour roman Notre part de nuit de Mariana Enríquez. Enríquez? Enríquez?
Enriquez.
Enríquez. Pourquoi je tente des. Enríquez, c'est très
Parce
bien.
qu'il est 21 h.
Oui, c'est ça. Du coup, c'est un roman qui a été publié en 2021 en France, donc c'est un des, je pense, des plus récents peut-être de ton corpus. Et alors, pour le petit résumé rapide, pour moi par exemple, je ne l'ai pas lu, donc je n'ai que le résumé pour l'instant. Alors, c'est un père et son fils qui traversent l'Argentine par la route, comme en fuite. Le petit garçon s'appelle Gaspard. Sa mère a disparu dans des circonstances étranges. Comme son père, Gaspard a hérité d'un terrible don. Il est destiné à devenir médium pour le compte d'une mystérieuse société secrète qui entre en contact avec les ténèbres pour percer les mystères de la vie éternelle. Alors déjà tout de suite, c'est un des premiers romans dont tu m'as parlé et il était instantanément dans ma liste des livres à acheter. Mais surtout sur la thématique, moi c'est une thématique qui m'a assez surprise parce de la sorcière genderfluide parce que bah, dans l'imaginaire collectif, la sorcière c'est une femme. Donc comment t'en es arrivé à cette thématique?
Alors déjà, je voudrais juste prévenir les personnes qui ont été hypées par le résumé que tu viens de faire, que
Ouais.
enfin de ne pas sauter sur l'achat de Notre part de nuit. Parce que c'est un roman qui présente plusieurs parties qui sont horrifiques, avec notamment des descriptions un peu gore. Je ne les évoquerai pas plus, vu qu'on ne peut pas
D'accord.
demander le consentement aux personnes dans un podcast et que je veux un peu
C'est
respecter ces
compliqué.
personnes. Mais attention à ça, ça peut être un petit peu
Soyez
surprenant.
prévenus.
Et voilà, avant la lecture. Et donc, la notion de sorcière genderfluid, en fait, c'est arrivé pendant que je préparais mon projet de thèse. Et promis, même si on a beaucoup dit le mot thèse depuis le début, je ne vais pas faire trop de théories pour éviter d'endormir tout le monde. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on part d'un certain nombre de caractéristiques de la sorcière qui sont rattachées, donc, comme tu disais, à la sorcière figure féminine. Mais que pour autant, on peut retrouver ces éléments-là dans des personnages masculins de qui la masculinité n'est pas exacerbée dans le roman. Et donc, qui vont partager aussi certains de leurs pouvoirs. Je pense notamment au cycle Dune de Frank Herbert, avec des personnages féminins dans le roman qui sont qualifiés de sorcières. Et donc, je me suis dit, étant donné que je n'ai pas assez de livres à étudier avec des sorcières femmes, pourquoi je n'irais pas aussi chercher des sorcières hommes? Et c'est pour ça, et à mon avis, et c'est ce que je vais essayer d'expliquer un petit peu, le personnage de Juan, donc qui est le père du petit garçon, est à mon sens une sorcière. Pour plusieurs raisons.
Ok. Donc c'est vraiment le, en fait, la figure qui transcende le côté genré de la sorcière.
Oui. Alors déjà pour commencer et essayer de montrer que Juan est gender fluid, je vais parler de personnages qui ne sont pas Juan, à savoir trois figures de sorcières qui sont un petit peu plus classiques dans les représentations et qui s'appellent Mercedes, Florence et Anne. Donc Anne est moins détaillée. Mais elle forme avec Mercedes et Florence un trio qu'on pourrait rapprocher des parcs, puisqu'elles décident du destin de différents personnages, ou du moins elles essayent. Et ce sont des personnages qui, pour Mercedes et Florence, sont du côté de l'horreur absolue. Et elles essayent de trouver, pour flatter leur ego et accéder à plus de pouvoir, le médium qui, pour la société secrète, donnera accès à l'immortalité, et particulièrement leur donnera accès à l'immortalité. Et pour ce faire, elles cèdent à des pulsions qui sont abominable, donc notamment, promis, je ne détaille toujours pas, torture d'enfants pour essayer de dominer le destin. Et donc, on a déjà un côté gender fluid dans ces personnages féminins, puisqu'elles ont un certain nombre d'aspects qu'on catégorise généralement comme masculins. Et je précise que quand j'utilise féminin et masculin, c'est en fonction des représentations qu'on a qui sont dominantes dans la société et que ce n'est pas un jugement de ma part, mais plutôt pour m'approcher des codes que tout le monde connaît. Et donc, dans leur description physique, notamment, elles ont des côtés un petit peu masculins. Et ça va permettre aussi, je pense, de relativiser le féminin horrifique, puisqu'on a toujours un petit peu de mal, que ce soit en fiction ou dans la vie réelle, à dire que des femmes sont horribles. Et donc, on a cette mise à distance de la part de l'autrice. Je ne sais pas si elle est voulue ou si c'est dans la constitution des personnages que ça s'est passé de la sorte. Mais en tout cas, elle ne représente pas les mères de l'année. Juan, au contraire, il est du côté de quelque chose de gender fluid aussi, comme je le disais tout à l'heure, mais plutôt en réussissant à acquérir des caractéristiques féminines, enfin, du côté du féminin, même s'il ne les cherche pas forcément. Et déjà, tout d'abord, parce que c'est un médium, donc un sorcier ou une sorcière qui peut parler aux êtres qui sont décédés. Et là, on peut faire un parallèle notamment avec une autre figure de sorcière féminine cette fois, qui est Tituba, qui parle à ses invisibles. Et donc, on va retrouver certains passages où il peut se rapprocher aussi d'une figure féminine, puisqu'il prend soin de son fils. On a un épisode notamment où son fils fait une migraine et qu'il sait gérer la migraine directement. Et c'est un rôle qui est traditionnellement du côté de la femme, le fait de s'occuper d'un enfant, du côté du care, même si on a en littérature des contre-exemples, avec notamment les chroniques du Pays des Mères d'Elisabeth von Arbourg. Et c'est un personnage qui d'ailleurs est queer. Et donc, même si les personnages queer sont de plus en plus développés dans la fiction contemporaine, c'est quelque chose qui reste assez novateur dans un récit d'avoir des scènes de sexualité entre deux hommes. En tout cas, dans la fiction à destination du grand public et pas dans de la fiction avec des étiquettes queer, pour aller très vite. C'est un personnage qu'on voit aussi très souvent malade et faible dans son corps. Et donc ça, de la même façon, j'ai l'impression qu'en fiction, c'est surtout les personnages féminins qui sont malades ou à deux doigts de mourir, avec un personnage masculin qui, bien évidemment, va venir les sauver. Fort et sauveur, et blanc, généralement. En
plus. Pour aller avec.
Et dans les cas où Juan est malade, on a sa compagne Rosario, qui est aussi la mère de Gaspard, qui va prendre soin de lui et le sauver. Et on a un des personnages, Florence, qui lui dit en anglais, alors qu'elle parle espagnol hein, normalement dans l'œuvre d'origine, « You talk him back to life », avec le jeu de mots entre « talk » et « take ». Donc à traduire en français, ce serait un petit peu laid, ce serait « tu lui parles de retour à la vie ». Donc si on enlève « take back, talk back », c'est laid. Mais donc, avec cette idée-là et d'inversion des rôles genrés dans le care aussi. Alors, cependant, je précise quand même pour celles et ceux qui ont lu Notre part de nuit que je suis consciente également de tous les aspects problématiques de Juan. Entendre, il est violent avec son fils. Mais malgré tout, cette violence, si elle n'est pas excusée par l'autrice, ni justifiée, a une raison, puisqu'il y a une scène de violence que je ne divulgage pas non plus, qui lui sert finalement à protéger son fils par le biais d'un rituel avec le recours au sang, la sorcière dans tous ses états. Et donc, ça peut nous rappeler aussi des personnages de mère comme Cersei dans Game of Thrones, qui de la même façon fait tout pour ses enfants et qui ne s'inquiète pas des limites entre le bien et le mal. Et pour terminer, pardon, c'est déjà un petit peu long.
Non, c'est passionnant.
Bon, ça va, alors je continue. Juan, c'est un personnage qui est proche de la nature. Alors, toutefois, la nature est un petit peu étrange dans notre part de nuit, puisque on a dans les romans de fantasy, donc là, c'est plutôt du fantastique horrifique, mais dans les romans de fantasy, on a le topos de l'univers second. Par exemple, dans Harry Potter, on a l'univers des sorciers qui est quand même plus ou moins caché de celui des moldus. Ou alors encore l'univers dans Narnia. Donc, si vous vous souvenez, dans le premier, il passe dans une armoire pour retrouver l'autre monde. Et donc là, on a aussi un univers second. Et lorsque les personnages passent une porte, ils découvrent une forêt. Sauf que petit à petit, ils réalisent, et on réalise avec eux en lisant le livre, que, bon, trigger warning, ces arbres sont composés d'eau et de membres humains. Et donc on va avoir une nature qui est pervertie et horrifique aussi. Mais toutefois, vu que c'est Juan qui a accès à cette forêt, aussi maléfique soit-elle, c'est lui qui est proche de la nature, comme sont proches de la nature un certain nombre de sorcières qui vont apprendre par cœur les plantes pour faire des potions ou autres. Et notamment dans le roman de Madeline Miller, Circé, on a le passage où elle déambule sur l'île, où elle trouve des plantes, etc. Donc là, on va avoir le même procédé, sauf que ce ne sont pas vraiment des fleurs ou des feuilles que ramasse Juan. Et donc, petite ouverture pour finir. Mariana Enriquez, je fais aussi sa promo, a deux anthologies de nouvelles qui sont traduites en français. Et on a des personnages féminins qui, dans les nouvelles, ont certaines caractéristiques, notamment au niveau des cicatrices, qu'on retrouve chez Juan. Donc, on a vraiment une circulation dans ses écrits, des caractéristiques qui ne vont pas dépendre du genre des personnages, mais vraiment de ce qu'elles vont en faire, en fait, dans ses récits. Voilà.
Je maintiens qu'on devrait être sponsorisé par nos libraires. Il y
Vrai.
avait une question que je me posais par rapport à cette thématique aussi sur la sorcière gender fluide. Est-ce qu'on retrouve aussi un lien? Parce que la figure de la sorcière, elle est très liée à la métamorphose. Donc au final, même si c'est lié à la femme, il y a quand même beaucoup le lien de bah, elle peut se transformer. Est-ce que du coup ça va aussi dans cette thématique?
Alors, je pense que l'aspect gender fluid ne va pas tout à fait dans la métamorphose, parce qu'on n'a pas de métamorphose qui soit un pouvoir ou qui soit voulu par les personnages au niveau de leur genre, dans les romans que j'ai lus en tout cas. Après, si ça existe, je suis preneuse. Si quelqu'un peut t'envoyer la référence sur Instagram enfin, que tu me la transfères,
Je
ce serait merveilleux.
transmets.
Mais par contre, oui, la métamorphose, c'est une thématique qui est vraiment importante dans les romans de la sorcière et qui est à creuser. Je suis en train de travailler là-dessus en ce moment.
Mais en tout cas, pas trop avec le genre.
Bah, pas avec le... Enfin, en tout cas, je ne pense pas. Mais après, je reste ouverte à d'autres points de vue, bien sûr. Et je me le note pour le creuser plus tard.
Je pense qu'on peut passer au sujet suivant, au moins que tu aies d'autres choses
Non,
sur
c'est
cette
tout pour,
thématique.
pour notre part de nuit. Sinon, je ne vais parler que de notre part de nuit.
Est-ce que c'est vraiment dérangeant? Les gens qui écoutent et qui voient déjà le temps filer, disent, bah, un petit peu quand même, on va écouter les
On était venu pour
autres.
plus de livres.
Bon, passons à plus de livres. Alors, la deuxième thématique que tu as intitulée sur le discours historique en fiction ou le devoir de mémoire appliqué aux sorcières chassées. Et donc là, tu proposes le livre The Familiars de Stacey Halls, traduit en français par Les sorcières de Pendle et publié en 2020. J'ai déjà pu en parler dans dans un de nos épisodes. Alors, pour, si vous n'avez pas écouté l'épisode, un peu petit résumé rapide. Donc, on suit l'histoire de Fleetwood Shuttleworth, qui est maîtresse d'un domaine en Angleterre et qui n'a pas donné d'héritier à son mari. Quand elle va enfin tomber enceinte, elle va intercepter une lettre de son médecin qui annonce que cette grossesse lui sera fatale. Et seuls les remèdes miraculeux d'Alice Gray, une jeune sage-femme solitaire rencontrée dans la forêt, semblent pouvoir la sauver. Mais bientôt, d'étranges phénomènes se produisent au village. Tous les domestiques et femmes sont accusés de sorcellerie. Alice en fait partie. Alors que l'historique procès de Lancaster approche et que le ventre de Fleetwood continue de s'arrondir, la jeune fille n'a plus qu'une obsession. N'a qu'une, si, c'était bon, n'a plus qu'une obsession pour sauver sa vie et celle de son bébé. Innocenter Alice. Alors, bah, justement, ça tombe bien que j'ai déjà parlé de ce livre dans un de nos épisodes, parce que c'est une parfaite illustration de ce que tu dis sur le devoir de mémoire sur les sorcières chassées, parce que justement, moi, j'ai lu ce livre, et comme cette histoire m'a intéressée, je suis allée faire les recherches ensuite sur bah, qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue historique au procès de Pendle. Donc c'est un peu cette thématique que tu veux mettre en avant.
Oui, complètement. Et ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est qu'on connaît moins bien les chasses aux sorcières de Pendle que celles de Salem.
Oui.
Et donc, je trouve ça plutôt chouette que quelqu'un ait pris le temps d'écrire un roman autour de ça. Parce que ça permet de sensibiliser aussi sur les chasses aux sorcières de façon plus générale.
Dans d'autres cultures et dans d'autres.
Mais je vais inverser les choses et te poser une question, mais aussi, est-ce que tu aimes ce roman?
Moi, je l'ai bien aimé. Après, c'était plus personnel au niveau du style d'écriture où j'ai pas complètement accroché, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire en tout cas.
Et donc, ça va être un petit peu des redites avec ce que tu avais dit sûrement dans l'épisode.
C'est pas
Mais
grave,
vu que
tout le monde
tu
n'écoute
connais
pas
bien
tous les
le.
épisodes, et puis même moi j'oublie ce que je dis, donc.
Mais vu que tu connais plus le livre, sens-toi libre de m'interrompre pour compléter à n'importe quel moment.
D'accord.
Donc, si tu te souviens et si vous vous souvenez, pour les autres personnes qui l'ont lu, dans la narration, dans le roman, donc on a le personnage de Roger qui va polariser les chasses aux sorcières, les incarner, et il y participe également, donc pas un personnage super sympathique de ce point de vue. Et à côté du personnage de Roger, donc c'est l'histoire, comme tu le rappelais, de Fleetwood, et à mon sens, le roman peut être rapproché d'un roman d'apprentissage, puisque au début du récit, elle apparaît comme une jeune femme naïve. On est en 1612, elle est mariée à 17 ans, et l'autrice interroge aussi un peu l'idée qu'on puisse être mariée à 17 ans. Et heureusement, heureusement qu'elle interroge l'idée. Et donc, au début des romans, les discours de Roger sur les sorcières, avec beaucoup de descriptions et de clichés, impressionnent Fleetwood, même si elle a déjà un début d'esprit critique, puisque Roger dit à un moment. Plus ou moins, que toutes les sorcières sont brunes. Et
Oui.
donc, Fleetwood lui répond, ça veut dire que je suis une sorcière, étant donné qu'elle est brune. Et donc, vu qu'on ne se voit pas, je ne sais pas si tu es brune, mais sinon, je peux te
Je
dire
suis
que tu n'es
brune.
pas
Oh
une moldue.
non.
Eh bien, tu n'es pas une moldue, félicitations. Et donc, évidemment, bah, Roger, parlant de sorcière, ça peut faire un petit peu peur aux yeux du mari de Fleetwood, Richard, et il dit, attention à ne pas effrayer ma femme. Et contrairement à notre part de nuit, pour le coup, vous pouvez aller lire sans avoir peur, ça ne fait pas peur,
Oui, là,
comme
il n'y a pas
roman.
de, il n'y a pas d'horreur.
Là, ça va, c'est safe. Et donc, dans le roman, on va avoir aussi tous les processus qui, historiquement, permettaient d'aboutir à des condamnations, voire à déboucher, c'est-à-dire les rumeurs dans le village. Et là, ça va être particulièrement présent autour d'une famille, les Device, et la mère dans la famille. Alors, je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais tu sauras peut-être. C'est la Dame Dyke.
Bah moi je l'avais pareil en français.
Ok. Eh bien, tant mieux parce que enfin, c'était pensé, c'était le vrai surnom de Madame Device lors des procès. Et donc, c'est un mot valise entre femme et démon. Et donc, sa description, en effet, à la Dame d'Ail qui va rappeler les sorcières diaboliques. Elle a le visage un petit peu difforme et un œil qui louche. Oh là là, c'est sûr, c'est une
Elle est
sorcière.
moche, c'est une sorcière.
Elle est moche, bon, il est là. On l'adore. Et donc, Alice Gray a la chance d'être belle. En plus, elle est blonde. Donc, Richard dira d'elle que c'est un ange de la
C'est bon.
forêt. C'est bon, tout va bien. Elle est
Petite
sage-femme.
pensée
Elle
pour
connaît les
Marion
plantes.
qui est blonde.
Eh bien, tu pourrais dire à Marion qu'elle est une gentille sorcière. A
Ça se tient.
priori. Donc, sage-femme qui connaît les plantes, qui maîtrise les plantes et qui, comme tu le rappelais, va accompagner Fleetwood dans une grossesse difficile. Mais au bout d'un moment, elle doit plus ou moins, Alice, cacher les infusions et les remèdes au moment où commencent les chasses aux sorcières, puisque c'est condamnable de prendre soin de quelqu'un d'autre, du moins en 1612. Et au moment où Alice est accusée, Fleetwood et elle ont noué des liens d'amitié et Fleetwood mène une enquête qui nous conduit entre autres dans la maison de Device. Et pour le coup, ça correspond quand même pas mal aux clichés qu'on a autour de la sorcellerie. C'est dans une tour en pierre, il fait froid, etc., etc. Et donc, à travers l'enquête de Fleetwood, ce qui est intéressant, c'est que l'autrice propose une déconstruction petit à petit des préjugés qu'on peut avoir sur les sorcières. Préjugés qui sont hérités des récits historiques, des démonologues, mais qu'on trouve toujours en fiction, puisque si on pense, là historiquement c'est discutable, mais dans Blanche-Neige, donc le dessin de Disney c'est 1937, il me semble, on a quand même cette idée de reine qui est très belle, et à partir du moment où c'est une sorcière comme la Dame d'Ike, elle est moche et elle louche. Donc bon, un peu d'équivalent de la misogynie intériorisée appliquée aux sorcières. Et petit à petit, donc, Fleetwood va déconstruire tout ça. Et à travers tout ce qu'elle fait, elle devient porteuse d'une forme de témoignage et donc du devoir de mémoire également, puisque c'est grâce à elle qu'on a la transmission de tout ce qui ne va pas. Et elle va jusqu'en prison pour voir Alice. Et à ce moment-là, l'autrice nous décrit les conditions, évidemment terribles, dans lesquelles les sorcières étaient enfermées. On a aussi une remise en question de la part de l'autrice des codes narratifs dans les récits où on a des sorcières, puisque quand on est dans un univers où on a des sorcières et qu'on est sûr que ce sont des sorcières, contrairement aux sorcières de Pendle, on va avoir l'idée de mentor qui va pouvoir guider le jeune sorcier ou la jeune sorcière. Et là, la Dame d'Ike, quand elle éduque sa fille, se loupe complètement, en tout cas sur l'aspect de la sorcellerie, et ça va mettre sa fille dans une très mauvaise posture, puisque qu'elle approche un homme, qu'elle veut lui jeter un sortilège, et que l'homme fait, je pense qu'aujourd'hui on dirait que c'est une crise d'épilepsie, mais en attendant on a un lien, une relation entre les deux, et on pense dans le roman que c'est la Dame d'Ike qui lui a appris quelque chose. Donc on a aussi un jeu de ce côté-là. Et pour terminer, à la fin du roman, on a une notice explicative pour dire quels éléments dans le roman sont inspirés du réel, quels personnages ont vraiment existé. Alors, ce n'est pas le cas de Fleetwood, elle n'a pas existé. Et donc, ça permet d'avoir un devoir de mémoire qui est d'autant plus prégnant parce que quand on a aimé l'histoire du roman et qu'on se rend compte que c'est en partie vrai, on se dit mince, je n'étais pas au courant, mais c'est embêtant quand même.
Et après, on se retrouve à faire ses recherches comme moi.
Après, on se retrouve sur Wikipédia et on voit que la Dame d'Ike, oui, elle a vraiment existé. Et qu'elle était moche dans la vraie vie aussi.
Et il y a toujours, moi j'ai toujours un petit côté triste quand on lit des histoires comme ça et qu'on se rend compte que c'était vrai, que des gens ont vraiment subi ça.
Ben, c'est surtout une fois enfin, on développe quand même de l'empathie plus facilement pour des personnages de romans que pour des
Oui.
personnes qu'on découvre sur Wikipédia ou dans des livres d'histoire.
C'est sûr.
Et c'est vrai que ça fait toujours un petit pincement. Voir ça rend triste en fonction de quel point on aime les personnages.
Et sur les romans que tu as étudiés sur cette thématique, est-ce qu'il y a une volonté d'être assez réaliste par rapport aux faits historiques ou au contraire de s'en détacher et de faire comme Stossiel, juste préciser à la fin, ça c'est historique et ça c'est de la fiction?
Eh bien, ça dépend des romans. Dans Tituba, pour faire un début de transition, étant donné que Tituba a vraiment existé, on a des passages, notamment pendant le procès de Tituba, donc il y a Salem, je spoil, où Marie Condé a retranscrit les propos de Tituba durant le vrai procès, puisqu'il y a une source qui les cite. Et par contre, ce
D'accord.
n'est pas précisé, enfin, on le sait grâce à des entretiens et des recherches précises. Enfin, après, on a juste retrouvé des sources, hein. Mais du coup, non, on peut avoir vraiment des bouts qui sont cités comme ça. Et il y a un autre roman auquel je pense, c'est, alors je ne sais pas s'il est traduit en français, je pense toutefois, c'est Ars Magica de Nerea Riesco, où en fait on va avoir une construction chorale, on a des chapitres qui s'attachent à une jeune sorcière, de qui la mentor est en prison suite aux accusations à Logroño. Et on a un inquisiteur qui a réellement existé, qui s'appelle Salazar de Frias, de qui on a gardé des carnets avec ses réflexions. Et on a certaines parties des carnets qui sont citées aussi, ou desquelles l'autrice s'inspire très très fortement.
J'ai déjà vu passer son nom plusieurs fois à lui dans des recherches
Oui.
sur l'histoire de chasse aux sorcières. Il n'a pas l'air très chouette.
Eh bien, il n'a pas l'air très chouette, mais a priori, alors je n'ai pas encore creuser le sujet sur ce roman, mais si c'est fidèle à ce qu'il écrivait dans ses carnets, c'est quelqu'un qui a remis en cause l'existence du diable et donc la pertinence des chasses aux sorcières.
Ah.
Il
Bon,
est
bah, je
connu
vais
pour
encore
être un
passer une soirée
inquisiteur
sur
terrible.
Wikipédia.
Non, mais connu pour être un inquisiteur terrible, mais a priori qui, au bout d'un moment, je pense pas que c'était au
Y a eu des
début
doutes.
de sa carrière. Ouais. Et il a été, enfin, ce qui est expliqué dans le roman, c'est qu'à partir du moment où, en tant qu'inquisiteur ou n'importe quel homme d'église, au moment des chasses aux sorcières, on commence à douter du diable, ce qui est problématique, ce n'est pas d'arrêter de brûler des sorcières. Ça, en soi, je pense que tout le monde peut le faire. Enfin, toutes les personnes qui brûlent des sorcières peuvent arrêter de brûler des sorcières s'ils nous écoutent. Mais c'est que interroger l'existence du diable, c'est remettre en question l'existence de Dieu. Et là, c'est beaucoup plus compliqué à faire quand on est un homme d'église.
c'est sûr. Ok. Et il y avait une autre question que je m'étais posée sur cette thématique. Est-ce que c'est aussi lié au fait de, enfin, d'écrire justement sur... Sur ces choses historiques, une manière de les faire passer dans le temps, de faire perdurer les histoires.
Eh bien, je pense parce que bah, toujours dans Ars Magica, le roman s'ouvre avec une procession de femmes qui sont accusées de sorcellerie. Et l'autrice cite tous les noms et prénoms, ou juste les prénoms parce qu'on ne doit pas avoir de traces des noms de famille, des accusés. Et donc ça permet d'en garder une trace. Et je pense de toute façon que choisir de parler de chasse aux sorcières, même si c'est dans le cadre d'une fiction, c'est déjà un choix politique en soi. Et ça ne peut jamais être gratuit.
Parce qu'il y a de plus en plus de d'acquittements qui se font de sorcières, d'histoires qui se sont passées il y a bien longtemps, de choses qui sont faites pour ce devoir de mémoire en dehors de la fiction. Et du coup, c'est chouette de voir que aussi dans la fiction, il y a cette volonté de conserver, de continuer ça.
Oui, et puis le problème avec les archives historiques, enfin un des problèmes pour cette période de chasse aux sorcières, c'est que vu qu'on voulait effacer toute trace des sorcières et de leur passage sur Terre, on brûlait les actes de naissance, de mariage, de propriété, etc. Et donc ça fait qu'elles n'existent plus, en fait, littéralement. Personne ne sait qu'elles ont existé. Et donc je pense que en parler en fiction, ça permet de leur redonner une existence, même si elle n'est pas fidèle à l'existence qu'elles menaient. Et bien au moins de se dire, bon bah voilà, on a quand même quelque chose qui est resté de leur histoire.
Et
En dehors du
ben
fait qu'on aime lire des romans de sorcières.
oui, clairement un argument pour acheter les bouquins quand on les voit dans les librairies. On passe au troisième axe. Alors, cette fois, c'est un peu continuité avec le précédent. C'est la sorcière en support d'interrogation sur la société. Donc là, tu as proposé deux livres parce que un, c'était pas assez. Donc on a Moi, Tituba, sorcière noire de Salem et Conversion, pardon, de Catherine Howe. Donc un roman qui est de 1986 et un autre qui est de 2015. Alors,
c'est ça.
le petit résumé rapide pour moi, Tituba. Alors, attention, ça commence de manière pas très un peu violente, puisque Tituba est la fille d'une esclave qui a été violée par un marin à bord d'un vaisseau de négriers. Et elle est née à la Barbade et initiée au pouvoir surnaturel par Maniaya, qui est une guérisseuse et faiseuse de sorts. Avec John l'Indien qui l'entraîne à Boston et ensuite au village de Salem, ça vous dit peut-être quelque chose, où elle va être au service du pasteur Paris. Et c'est dans ce contexte que va avoir lieu le procès des sorcières de Salem en 1692, où Tituba sera. Alors, spoiler, mais je ne sais pas si c'est vraiment un spoiler, vu que c'est historique et assez connu, Tituba sera accusée et arrêtée. Alors, je ne vous dis pas ce qui lui arrive après, si jamais vous ne connaissez pas ce pan de l'histoire. Autour de cette histoire historique, on a donc l'histoire racontée par Marie Scondé de toute la vie de Tituba. Et voilà, le résumé que j'avais trouvé raconte un peu la fin, donc je vais m'arrêter là.
Ok, je passerai sous silence alors les moments où je raconte la fin.
Ce qui est assez drôle, c'est que ce livre, moi, c'est d'ailleurs c'est Mario qui me l'a offert, et je l'ai entamé sans du tout lire la quatrième de couverture, ni en connaissant absolument rien dessus. Et c'est quand ils sont arrivés à Boston que je me suis dit, ah mais attends, mais Tituba, mais les procès de Salem, ah mais je connais cette histoire en fait. Et tout le début, il y a quand même un long moment avant qu'elle arrive à Salem. Et c'est que, je ne sais plus, c'est un tiers ou la moitié du livre qu'on arrive vers là. Et je me dis, ah mais en fait, ça reprend quelque chose d'historique.
Oui, parce que Salem, c'est la deuxième partie et j'ai le livre sous la main, ça commence page 140 et
Ouais,
le livre en
donc
fait
on a vraiment.
270, donc c'est pas la plus grosse partie du livre. Et pourtant, Tituba n'est pas un prénom très répandu, mais c'est vrai que sans le savoir, on est vite pris et prise dans l'histoire autour de l'esclavagisme, de la
Ouais, et
nature,
puis comme
etc. Donc...
on c'est un contexte complètement différent, du coup, je n'ai pas du tout fait le lien.
Est-ce que c'est un roman que tu aimes?
Ouais, c'était vraiment une lecture que j'avais adorée. Les procès de Salem, ça fait partie d'une partie de l'histoire de Chasse aux sorcières qui me fascine le plus. Et du coup, déjà j'aimais beaucoup le livre. Et puis quand en plus on est rentré là-dedans, c'était ah ouais, c'est bon, j'adore ce livre.
Je le conseille à beaucoup d'amis et notamment une amie qui s'appelle Cécile. Pour la petite anecdote personnelle, on a un bureau partagé et donc quand je suis arrivée au bureau lundi, elle avait moi Tituba sorcière sur son bureau. Donc j'étais très contente que ma propagande fonctionne. Je l'ai prêtée à ma copine qui a adoré et je lui fais un bisou vu qu'elle écoutera le podcast.
Ah,
Voilà, le petit placement de
oh.
bisous.
C'est trop mignon.
Merci. Et donc, pour revenir à Tituba, avant de trop digresser, vu que l'heure avance, là, c'était plutôt sur le réalisme. Donc, comme tu le rappelais, Tituba a vraiment existé, et les procès de Salem, malheureusement, aussi. Et donc, on a plusieurs axes qui sont développés dans le roman. Et tout d'abord, on a l'apprentissage de Tituba avec Maniaya, qui est une sorcière aussi. Et donc là, on a quelque chose qui va s'approcher. Donc, avec moi, Tituba sorcière, on est du côté du réalisme magique pour le genre littéraire. Et à travers tout l'apprentissage, le fait qu'elle puisse parler aux invisibles, etc., on a quelque chose qui reste assez réaliste, puisque c'est une transmission de croyances qui se fait par l'intermédiaire du roman. Et donc, les personnes qui vivaient à ce moment-là partageaient ces croyances. Donc, on a tout un groupe pour qui les différents sacrifices qui sont mis en place étaient censés fonctionner et peut-être fonctionnaient. Après tout, qu'en savons-nous? Nous n'y étions pas. Et donc, on peut avoir des liens avec les divinités païennes, même si elles ne sont pas nommées, à travers, en tout cas pour reprendre des termes qui sont plus proches de notre culture à nous. Et donc, avec notamment la communication avec les invisibles. Et donc, les plus présents dans le roman pour les invisibles sont sa mère, son père d'adoption et Maniaya, qui est sa mentor. Et puis, on va aussi avoir, du côté du réalisme, tout l'axe des liens entre les personnes blanches et les personnes noires. Et non seulement on a le révérend Paris que tu citais il y a un instant, mais on a aussi un personnage détestable qui s'appelle Susanna Endicott, qui est la maîtresse de John et de Tituba. Et elle donne un certain nombre de tâches à faire à Tituba, évidemment, étant donné qu'elle est son esclave, mais elle lui interdit formellement de cuisiner parce qu'elle a peur que Tituba l'empoisonne. Non pas parce que Tituba est une sorcière, mais parce que Tituba est noire. Donc, assez réaliste aussi du côté du racisme. On a plusieurs passages qui vont l'évoquer. Et ce racisme est d'autant plus prégnant que, comme tu disais, Tituba est née d'un viol d'un marin blanc, et donc elle n'est pas complètement noire. Donc elle ne peut pas trouver facilement sa communauté, n'étant ni blanche ni noire. Elle est toujours à la marge des deux communautés. Et ce qui est assez intéressant à lire aussi, mais bon, ça reste les passages où on est triste. Je vais vous parler de tristesse tout à l'heure. Et donc, la sorcellerie pour ce roman est présentée du côté d'un respect de la nature et des règles de la nature, qui est assez intéressant aussi à lire et ce qui représente bien le personnage de Tituba. Et on a un partage dans les histoires que Tituba va raconter aux filles qui sont assez jeunes à Salem, et qui adore découvrir la culture de Tituba à travers toutes les histoires qu'elle peut raconter, qu'elle tient de sa mère ou d'autres esclaves noirs. Le pendant de ce qu'elle apporte de positif aux petites filles, c'est la façon dont les personnes blanches la traitent, notamment à Salem. Dans les interactions avec les personnes blanches, on a quelque chose qui est assez ambivalent, puisque soit on l'ignore, soit on l'insulte. Et les seuls moments où on la considère, c'est pour lui demander, donc seul moment où on reconnaît le fait qu'elle a de la gentillité, du pouvoir, qu'elle peut agir sur le monde, c'est pour lui demander de maudire des personnes. Donc pour vraiment rentrer dans le cliché à base de hey, « Hé, tu pratiques le vaudou ?» Un petit peu mieux écrit quand c'est Marie Scondé, bien sûr. Mais toujours quelque chose de raciste. Les seuls moments où on la considère, c'est pour être raciste. Et donc on a un passage sur un bateau aussi, donc je n'en dis pas énormément sur le pourquoi elle est sur un bateau.
Vous
Et au moment où
découvrirez en lirant, en lisant.
vous découvrirez après la deuxième partie, on a un moment où il n'y a plus de vent et le capitaine, donc à ce moment Tituba n'est pas esclave, et le capitaine, le seul moment où il la considère comme quelqu'un d'autre qu'une esclave, c'est pour lui donner un ordre et lui dire fais quelque chose. Et là, on a une scène majestueuse, à mon avis, subjectif, de maîtrise des éléments, où Tituba réussit à reprendre le contrôle aussi sur elle-même, sur ses pouvoirs, et dépasser le fait qu'on la considère comme une moins que rien. Et donc voilà, c'est mon passage préféré. Et donc, enfin, tu auras peut-être compris que j'aime beaucoup ce roman.
Si les gens
Et
n'ont pas
j'ai...
ce livre chez eux, c'est une obligation d'aller le commander chez leur libraire.
En plus, il est chez Folio en poche. Donc, ce n'est pas
Donc c'est pas
le
cher,
livre avec le plus gros coût
allez-y.
qu'on aura proposé ce soir. Et donc, pour Tituba aussi, j'ai choisi un extrait parce qu'elle est dans le panthéon de mes sorcières préférées. Et donc, avant de vous lire l'extrait, juste un petit peu de contexte. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas un spoil vu que tu as déjà spoil. Tituba est en prison. Et elle est avec un personnage qui s'appelle Esther Prime, qui est le personnage principal dans un roman qui s'appelle La Lettre écarlate de Nathaniel Hawthorne. Et donc Esther est en prison parce qu'elle a commis l'adultère avec un homme de qui elle est tombée enceinte. Et donc les deux personnages se rencontrent, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, le fait qu'elles se rencontrent. Et donc Esther lui donne des conseils pour préparer sa déposition au moment du jugement. Parler d'une fille de révérend pour en avoir un bout sur Satan. N'avait-elle pas rompu le pain avec lui depuis l'enfance? Ne s'était-elle pas vautrée sur son édredon dans sa chambre sans feu en la fixant de ses prunelles jaunâtres? N'avait-il pas miaulé dans tous les chats noirs, poissé dans les grenouilles et même fait la ronde dans les souris grises? Fais-leur peur, Tituba. Donne-leur-en pour leur argent. Décris-le sous la forme d'un bouc avec un nez en forme de bec d'aigle, un corps tout couvert de longs poils noirs et,
attaché à sa taille, une ceinture de tête de scorpion. Qu'il tremble, qu'il frémisse, qu'il se pâme, qu'il danse au son de sa flûte perçue dans le lointain. Décrit-leur les réunions de sorcières, chacune arrivant sur son balai, les mâchoires dégoulinantes de désir à la pensée du banquet de fœtus et d'enfants nouveau-nés qui seraient servis avec force chope de sang frais. J'éclatai de rire. « Voyons, Esther, tout cela est ridicule, mais puisqu'ils y croient, que t'importe, décris. » Donc voilà pour l'extrait qui est assez représentatif des procès en sorcellerie, vu que sous la torture, je crois que, je ne sais plus si c'est toi qui avais demandé à Marion, ou Marion qui t'avait demandé si vous dénonceriez mutuellement sous la torture.
Ah, c'est bien moi qui lui ai demandé ça.
Mais donc, on retrouve un peu cette idée dans ce passage, qui est un beau passage, parce qu'au niveau de la description, on est dans quelque chose à la fois absurde et très beau, puisqu'on a un retournement de situation. Si Tituba fait cette déclaration, elle reprend le pouvoir sur la narration et sur sa vie. Et en même temps, bon, bah, ça reste très fidèle historiquement, puisqu'on avait presque mot pour mot la même chose dans le Maleus Maleficarum ou autre joyeux texte.
Et tu ne et donc, recommandes pas par rapport, contrairement à tous les autres.
Non, vous pouvez vous passer d'acheter le Maleus Maleficarum. Si vous avez un budget serré niveau livre ce mois-ci, achetez
c'est Tituba. C'est peut-être celui-là qui passera.
Et pas le Maleus Maleficarum.
C'est chouette que tu aies lu un extrait en plus parce que je trouve que Marie Scondé, elle écrit en plus très très bien. Et c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup dans ce roman, c'est que c'est extrêmement bien écrit.
Le rythme est vraiment incroyable en plus. Et je voulais juste finir avec un tout petit point sur Tituba, que je trouve intéressant aussi. C'est le fait que dans le roman, on a une réelle réflexion sur la place de la femme et notamment le désir de Tituba. Dans les récits des monologues, on disait que les sorcières étaient lubriques, qu'elles adoraient avoir des rapports sexuels avec le diable, etc., etc. Et donc là, le fait que Tituba soit un personnage accusé de sorcellerie qui assume son désir et qui ait plusieurs amants dans le livre, même si sa mère lui dit « Arrête avec les hommes, ça t'a conduit à redevenir esclave » et autre joyeuseté qu'on ne divulgâchera pas non plus ici. Je trouvais ça assez intéressant aussi, d'avoir une sorcière qui ne soit pas sexualisée avec un gaze, même si ça n'aurait pas été male gaze, mais un démonologue gaze. On peut inventer le concept.
J'adore.
Et donc, voilà, je trouve ça très chouette.
Je retiens le terme démonologue gaze, je le replacerai.
Allez.
Il y avait... ça ferait une transition avec le roman que tu as proposé après, qui date de 2015, parce que quand j'ai lu Tituba, comme je disais, je me suis pas du tout renseignée sur ce livre, à part qu'on me l'a mis entre les mains, et du coup j'ai commencé à le lire. Et c'est après que j'ai fait un peu de recherche et que j'ai découvert qu'il datait de 1986. Et comme moi je l'avais lu, je crois que c'était vers 2020 ou quelque chose comme ça, moi j'avais l'impression que c'était que ça datait aussi de 2020 et j'avais été assez surprise de voir que c'était de la fin des années 80 et que c'était pas que les sujets qu'elle soulève, que sa critique envers l'esclavagisme et tout ça sont bah, ce sont au final des choses que j'avais plus l'habitude de lire dans des romans plus récents.
Mais je suis d'accord avec toi, c'est un roman qui est très en avance sur son temps. Et alors, je n'ai pas retenu le nom précis, mais je sais que Marie Scondé a été directrice ou présidente, je ne sais plus, dans un département d'anglais à Columbia. Enfin, elle a un doctorat en littérature et c'est une personne qui, en dehors de son œuvre littéraire, accordait aussi beaucoup de place dans les travaux de recherche qu'elle a pu mener à la place de la femme ou des personnes racisées.
D'accord. Donc, en plus, c'est une personne formidable.
On veut être Marie Scondé.
Après, elle s'est levée, mais passons à... donc, du coup, le second roman que tu as proposé, donc Conversion. Alors, celui-là, je ne l'ai pas lu, mais le résumé me donne bien envie. Qu'arrive-t-il aux élèves du prestigieux lycée Saint-Jean? une adolescente est prise de convulsions, puis d'autres présentent à sa suite d'étranges symptômes. Perte de cheveux, paralysie, quinte de toux. La presse s'empare de l'affaire, la rumeur enfle jusqu'à la panique. Seule Colleen remarque un détail qui a échappé à tous. St. John se trouve à l'emplacement du village de Salem, où, 3 siècles plus tôt, des jeunes filles ont été touchées par des troubles similaires. Les époques se croisent, les drames se nouent. Conséquence d'une pression scolaire excessive, simulation, sorcellerie. Mettant en parallèle 2 histoires inspirées de faits réels, l'auteur nous entraîne dans une enquête pleine de suspense sur fond de paranormal. Ça a l'air trop bien.
Alors, je vais essayer de... Bah, il est très bien, donc c'est pour ça. Lisez Conversion, voilà, de toute façon, on peut le dire pour tous les livres.
Oui, a priori, tu ne recommandes pas de livre. Tu n'as pas aimé.
Ah, ça pourrait. Je peux ne pas recommander un livre. J'en ai lu un il n'y a pas si longtemps que j'ai détesté. Je peux vous dire de le lire pour le détester avec moi. Ça peut fonctionner, des communautés de haters. mais celui-ci, je l'ai plutôt... Enfin, quand on a discuté de ce dont on allait parler ce soir, je l'ai plutôt mis en ouverture de Tituba, et aussi parce que j'avais peur de ne pas avoir assez de choses à dire, mais visiblement, ça va. Enfin, je vois l'heure et ça va. En 2012, à New York, se sont produits des événements similaires. Et donc, le fonctionnement du roman consiste en une double enquête, pour ainsi dire, qui va mettre à distance les événements tragiques de Salem. On a un roman qu'on peut dire choral, d'un côté la confession d'un personnage qui s'appelle Anne, qui a accusé, ce n'est plus un spoil à ce moment du podcast, qui a accusé les personnes mises en cause pour sorcellerie à Salem. Et donc, avec les événements de Le Roi, vont se poser aussi des questions autour de la sorcellerie, puisqu'on a des symptômes qui reviennent entre les personnages de Salem, enfin les personnes de Salem et les personnages de conversion. Et donc, ça va permettre de tisser l'enquête, puisque, évidemment, pendant qu'avance le témoignage dans certains chapitres d'Anne, avance des événements dans la partie contemporaine. Et donc, c'est un processus d'enquête qui paraît revenir quand même assez régulièrement dans des romans avec des sorcières, vu qu'on parlait déjà d'enquête tout à l'heure avec les sorcières de Pendle. Et ce qui est intéressant avec ce livre, à mon avis, enfin, entre autres choses intéressantes, mais pour n'en garder qu'une, c'est qu'il permet de dénoncer le fait qu'on peut toujours croire, en 2012, donc, à une sorcellerie démoniaque. Et donc, je ne juge pas du tout les personnes qui croient aux sorcières ou à la sorcellerie, mais plutôt le fait que ça puisse pousser encore à des chasses aux sorcières. Et c'est Sylvia Federici, bon, elle ne parle pas de conversion de Catherine O, bien évidemment, dans une guerre mondiale contre les femmes, mais elle explique en fait dans son essai qu'il existe toujours à notre époque des chasses aux sorcières, et c'est ça le plus tragique dans l'histoire. Enfin, qu'il y ait eu des chasses aux sorcières, on ne peut rien y faire, mais qu'il en existe encore aujourd'hui, ça donne froid dans le dos. Et donc, ça permet, enfin, on parlait de devoir de mémoire tout à l'heure sur d'autres romans. Mais ça montre que c'est d'autant plus nécessaire quand on a une représentation dans des époques qui sont la nôtre dans un roman. Ça touche encore plus que quand on lit des choses qui se passent au XVIIe siècle. Et puis, on a tous fréquenté des établissements scolaires et on sait à quel point ça peut aller vite en termes de rumeurs. A priori, c'est vrai. Peut-être qu'il y en a qui ont fait école à la maison et qui n'ont jamais été confrontés aux rumeurs dans les couloirs.
Et qui, du coup, assument fièrement leur côté magique. J'espère.
J'espère.
Cette thématique, moi, ça m'inspirait aussi sur le fait que la figure de la sorcière, c'est souvent... Enfin, ça a été marqué comme un emblème des persécutions. Notamment grâce avec tous les procès, et aujourd'hui encore on dit chasse aux sorcières dès qu'un politique s'emballe un petit peu parce qu'on lui a dit qu'il fallait qu'il arrête ses comportements problématiques. je digresse, mais
on du ne coup c'est personne.
c'est toujours dans cette même idée du coup de reprendre continuer la figure de sorcière comme un symbole de persécution.
Oui, complètement. Et puis une façon de réparer les injustices aussi. Parce que le fait de trouver des raisons qui ne soient pas « c'est une sorcière qui a eu des rapports sexuels avec le diable » dans la partie
Bouh!
contemporaine, ça permet en même temps de dire « bon, en vrai, ce qui s'est passé à Salem, ce n'était pas de la sorcellerie. »
Ouais, de le rappeler, remettre au clair. Eh ben, passons à la dernière partie.
Oui, c'est rapide, je le promets.
Oh, c'est pas moi qui vais te le reprocher.
Oui.
Donc cette dernière partie, eh ben, partons dans le futur, puisque tu proposes la sorcière du futur. Avec Dune de Frank Herbert, qui en plus c'est une bonne thématique parce que le nouveau film va sortir la semaine prochaine en
Mais c'est ce
France.
que je me suis dit en voyant la date.
Ah bah je dis la semaine prochaine, mais en fait quand l'épisode sortira, le film sera déjà sorti. Donc les gens l'auront fraîchement dans la tête s'ils sont allés le voir. Et donc Dune, c'est une série de romans publiée à partir de 1970 en France. Alors pour le résumé, alors c'est très compliqué hein, parce que c'est très vaste. J'ai essayé de trouver un résumé qui n'était pas trop long. Il n'y a pas dans tout l'Empire de planète plus inhospitalière que Dune. Partout des sables à perte de vue. Une seule richesse, l'épice de longue vie, née du désert et que tout l'univers convoite. Quand Léo Atreides reçoit Dune en fief, il flaire le piège. Il aura besoin de guerriers Fremen qui, réfugiés au fond du désert, se sont adaptés à une vie très dure en préservant leur liberté, leurs coutumes et leur foi. Il rêve du prophète qui proclamera la guerre sainte et changera les cours de l'histoire. Cependant, les révérendes mères du Béné Gesserit poursuivent leur programme millénaire de sélection génétique. Elles veulent créer un homme qui réunira tous les dons latents de l'espèce. Le Messie des Fremen est-il déjà né dans l'Empire? Tintintin. Ce résumé est très et plein de suspense.
Mais déjà, merci d'avoir pris en charge le résumé de Dune, parce que quand je dois parler de Dune et résumer Dune, je m'arrache les cheveux. Donc
Je
là, je
sais pas
suis ravie.
si ça couvre 1% de je pense de tout ce qui se passe dans Dune, non.
Mais ça permet de finir par tatata. Et
Oui,
ça vaut
ça
tous les
c'est beau.
résumés.
Donc moi j'avais été marquée quand j'étais allée voir. Moi je les ai pas lus, mais j'ai juste vu le premier film et les Bene Gesserit, énorme coup de cœur.
Ah bah évidemment, ce sont les meilleurs de la saga. Bon, à nuancer un petit peu quand on a lu les deux autres. Mais je vais te dire pourquoi. Alors déjà, Dune, j'ai un rapport un petit peu particulier avec le cycle, pardon. C'est un livre qu'on m'a conseillé. En fait, j'avais écrit à une ancienne prof d'anglais. Je dis, je cherche des livres de science-fiction avec des sorcières, des livres anglophones. Avez-vous des conseils? Et donc, elle m'a dit, je ne sais pas trop, mais peut-être Lady Jessica dans Dune. Et donc, je me procure, bien évidemment, Dune. J'ouvre le premier tome, première page, et passé quelques lignes, je lis. La vieille femme fut introduite par une porte dérobée et conduite jusqu'à la chambre de Paul par le passage voûté. Pendant un instant, elle put le contempler dans son lit. Il ne dormait pas. À la faible lueur de la lampe à suspenseur qui flottait près du sol, il distinguait à peine cette lourde silhouette immobile sur le seuil et celle de sa mère, un pas en arrière. La vieille femme était comme l'ombre d'une sorcière. Sa chevelure était faite de toiles d'araignée qui s'emmêlaient autour de ses traits obscurs. Ses yeux étaient comme deux pierres ardentes. Alors, non, je n'ai pas choisi le passage pour que tu cours acheter le tome 1 des Dunes. Moi. Mais en attendant, un livre enfin, qui se passe dans le futur, qui s'ouvre sur une description de la sorcière qu'on aurait pu trouver dans le Maleus Maleficarum, j'étais sidérée. Et j'ai trouvé ça trop bien. Donc, déjà, j'étais très, très contente d'avoir commencé Dune et je me suis dit, c'est bon, je vais trouver des trucs dont j'ai besoin. Et donc, on a d'autres éléments qui peuvent faire appel aux représentations de la sorcière. Alors, pour le coup, je n'ai pas encore vu le film. Mais je vais aller enfin, je vais le regarder avant d'aller voir au cinéma le deuxième, quitte à aller voir, autant les voir sur le grand écran. Mais on a le mélange, je pense, dès le premier opus de Denis Villeneuve, qui peut être assimilé à la potion, puisqu'on a chez les Fremen une façon de le préparer pour le mettre dans du café, qui permet de faire penser un petit peu aux manipulations, d'autant que quand on sert le mélange, on a une préparation particulière avec des objets, notamment les tasses, et bon, c'est pas le bon mot, théière, mais enfin bref, le récipient où on met le café, le mélange, qui doit avoir appartenu à d'autres personnes avant, donc un peu avec une transmission héréditaire qui rappelle le Mentorat, et seules les femmes peuvent servir le mélange. Donc c'est assez intéressant de ce côté-là. Et on va trouver plusieurs personnes qui ont des pouvoirs psychiques. On va parler de préscience. Et la préscience est permise par le mélange, donc autrement dit, par l'épice. Et même si beaucoup de personnes considèrent que, comme le cycle est publié entre 1965 et 1985 pour les versions originales, c'est une métaphore du LSD, je ne suis pas d'accord,
Ah.
c'est une métaphore des potions des sorcières.
Je préfère cette version.
De toute façon, dans certaines théories, on considère que les sorcières s'enduisaient le corps d'Ongan et qu'en fait c'était des drogues. Donc est-ce
Oui.
que les potions des sorcières n'étaient déjà pas du LSD au XVIIe siècle? Le débat est ouvert.
C'est une théorie qu'on pose là.
Répondez-nous si vous souhaitez participer au débat. Et donc, je vais pas détailler sur ce point parce qu'on en a parlé avec notre part de nuit, mais on a aussi des personnages de sorcières gender fluid dans Dune, avec Paul Mouadib notamment et son fils Leto 2, qui nous intéresse plutôt pour la représentation de la sorcière dans le futur. En tout cas, aujourd'hui, ça va être le Bene Gesserit, que tu aimes.
Oui.
J'ai bien compris. Et donc, le Bene Gesserit, c'est un ordre. Bene Gesserit en latin, si ma mémoire est bonne, ça veut dire qu'il sera bien conduit. Enfin, si ma mémoire est bonne, parce que je l'ai lu quelque part. Je ne parle pas latin. Et donc, en fait, c'est un ordre, on peut dire, de femmes ultra badass. Ils vont s'apprendre, enfin, qui vont se transmettre des savoirs uniquement entre femmes sur une planète séparée dans l'univers, donc en non-mixité, en fait, sur leur planète. Et donc, elles ont plusieurs pouvoirs. Déjà, physiquement, elles pratiquent le pranabindu et autre chose qui leur permet d'être très souples et très à l'aise dans des combats au corps à corps. Et c'est, enfin, physiologiquement, c'est tellement poussé au niveau des techniques que c'est presque magique. Et en plus de ça, au moment de leur mort, elles peuvent transmettre leur mémoire et toutes les mémoires qu'elles avaient en elles à une autre personne. Donc là, on est sur un truc qui est quand même super stylé. Et je me demande si ça
Ouais.
permet d'avoir lu tous les livres que la personne avait lus, ce serait très pratique.
Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, mais c'est c'est génial.
Serait incroyable. Et donc, le Bene Gesserit, vu que ce sont des femmes fortes, comme les femmes fortes, ou du moins avec un minimum d'indépendance au XVIIe siècle, se font traiter de, je cite, maudites sorcières. Sympa. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est parce qu'elles contrôlent globalement tout l'univers
Oui, et les
grâce
gens
à un
sont jaloux.
programme génétique. Ben, les gens sont super jaloux parce qu'elles ont un programme génétique qui leur permet pardon, de contrôler les lignées en faisant des mariages, bon, je pense qu'on peut dire arrangés entre des personnes. Et elles essayent de trouver leur quizzat ad errare, autrement dit le messie que tu évoquais dans le résumé, grâce à des croisements génétiques. Donc là, c'est le côté un petit peu plus dark du Bene Gesserit parce qu'à force de manipulation, on devient un petit peu moins sympathique.
Ouais.
Et le côté qui me fait un peu nuancer, enfin, relativiser mon amour pour le cycle après ma première lecture, c'est qu'on a, à mon avis, certains éléments qui sont un petit peu misogynes, vraiment un tout petit peu. Bon, après, c'est publié à partir de 1965. Et donc, on n'avait pas
Oui.
encore eu MeToo, ce qui ne justifie pas certaines choses, mais qui peut expliquer en tout cas qu'il n'y ait pas eu de tollé au moment de la publication par rapport à ça. Et donc, pour ne froisser personne, je sais qu'il y a beaucoup de travaux en recherche littéraire qui s'attachent à analyser le féminisme dans Dune ou les avatars du féminisme. Mais bon, enfin, il y a des arguments avec lesquels je suis d'accord. que je ne renie pas. Et il y en a d'autres avec lesquelles je suis un petit peu moins d'accord. Et un des arguments vraiment contre une lecture féministe de Dune, c'est que dans le dernier tome, je ne divulgage rien là non plus, c'est promis, mais on a un combat donc entre les maudites sorcières et les, je cite, catins. Et le tome s'ouvre sur la description de la poitrine d'une femme.
C'est sympathique.
C'est sympathique. Donc pour avoir une lecture féministe après avoir lu le dernier tome, on est bien embêté. Mais ouais. En attendant, on a quand même le Bene Gesserit qui peut représenter une forme d'expérience de pensée de ce que deviendrait la sorcière dans des millénaires. Pour le coup, je trouve que ça donnerait envie d'être une sorcière dans 3000 ans. Et qu'avec le côté gender fluid de la sorcière, là on a pour les taux 2 la transmission des mémoires de femmes qui étaient du Bene Gesserit, donc ça va vraiment venir appuyer. Et en plus, les taux 2, je réfléchis en parlant par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure sur la métamorphose, les taux 2 se métamorphosent dans les romans.
D'accord.
Et il peut prendre des voix de femmes. Donc là, peut-être, tu vois, on avait dit qu'il fallait creuser plus tard. Eh bien, on a creusé.
Waouh, t'es super forte.
Accrédité pour l'idée. Je me prends une note. Merci Louise de C'est pas sorcière. Donc, effectivement, il y a quelque chose aussi de ce côté-là. Et donc, pour résumer, dans Dune, bah le Bene Gesserit, on balance entre des clichés avec la sorcière qui fait peur aux pauvres hommes et des femmes qui dominent littéralement tout l'univers. Et c'est un avenir que je souhaite aux sorcières dans le futur, dominer tout l'univers.
Tout l'univers. Écoute, on n'est pas trop sur la bonne voie pour l'instant, mais on y travaille.
Ouais, c'est dans longtemps, Dune.
et justement, tu m'as déjà un peu répondu dans la préparation de l'épisode, mais moi, j'avais été surprise par cette thématique de la sorcière du futur, parce que c'est quelque chose que j'avais jamais vu, et en fait, de tête, j'aurais même pas pensé à Dune. Les romans sur les sorcières, c'est plutôt des choses qui explorent le passé, beaucoup de choses... sur la Renaissance, et c'est assez rare de voir des sorcières dans le futur. Du coup, je t'avais demandé si c'était quelque chose qui était propre à la littérature contemporaine ou s'il y avait déjà eu d'autres écrits. Mais comme tu travailles sur la littérature contemporaine, c'est un peu compliqué de répondre à la question.
mais en tout cas, vu qu'on n'a pas donné assez de références, mais je l'ai déjà donné tout à l'heure, dans les chroniques du Pays des Mers d'Elisabeth von Arbourg, le terme sorcière n'apparaît pas. Donc je précise que c'est une lecture personnelle et qu'elle est peut-être contestable, mais on a des personnages féminins qui, dans le futur, ont des pouvoirs qui sont autour de l'hyper-empathie. Et il y a dans la parabole du semeur d'Elisabeth E. Butler aussi, un personnage hyper-empathique. Donc on peut associer ça aux caractéristiques de guérisseuse des sorcières qu'on avait au XVIIe siècle, donc un peu avec une projection dans le futur des caractéristiques qu'on a. Mais avant ces dates-là, je ne sais pas du tout, j'imagine, je pense.
Bon, si quelqu'un a la réponse, on va recevoir beaucoup de messages suite à cet épisode. Envoyez-nous des messages.
Envoyez-nous encore plus de livres à lire, on veut lire des livres avec des sorcières.
Je pense qu'on est quand même c'est pas mal hein, on a une heure d'enregistrement à peu près.
Et ben nickel.
C'est beau ça. Bon, alors j'imagine que là c'est ce dont tu as parlé, c'est la partie émergée de l'iceberg qui est ta thèse.
Oui, et même quand je fais des communications sur des journées d'études, ça ressemble pas tout à fait à ça. Enfin, c'est ouais. La même chose, mais je parle encore plus et je sors encore plus de références, donc ça peut être un peu. Enfin, ça aurait pu être un petit peu assommant pour l'objet podcast, vu qu'on écoute des podcasts aussi pour se détendre, enfin pour apprendre des choses, mais aussi pour se détendre.
Et justement, si on a envie de creuser un peu plus, est-ce qu'on peut retrouver des choses que tu aurais écrites sur le sujet quelque part?
Bien sûr. j'ai sur Academia, Donc c'est en fait c'est le Facebook des chercheurs et chercheuses qui postent des trucs de temps en temps. J'ai posté là cette année, enfin sur les sorcières, deux trames de communication que j'ai faites, une sur Dune justement, et
Ok.
une sur Tituba.
Bah parfait. En plus, ça permet de prolonger ce dont on vient de parler.
Oui, et puis après éventuellement sur des colloques ou d'autres choses. Et pour l'autopromo, si je peux, on sera à
Vas-y.
Ouest-Furlan avec le Laboratoire
Oui.
des Imaginaires encore cette année.
Et puis évidemment, j'imagine que tu nous inviteras tous à ta thèse et tous les auditoristes seront présents dans l'assemblée le jour où tu soutiendras ta thèse.
Eh bien, rendez-vous dans 3 ans alors.
On note dans notre agenda.
Allez.
Ça va, on te met pas trop la pression.
Non, ça va, je vais juste prévenir la fac qu'il faudra une salle un petit peu plus grande que prévu.
Au Stade de France, s'il vous plaît.
Waouh, vous avez beaucoup d'auditories.
Non, pas du tout.
Après.
C'est moi qui m'emballe. D'autres instants promo ou des choses à recommander ou
pas d'autres instants promo. Et niveau
Ok.
recommandations, si je me relance à donner des titres, on va se relancer à parler de livres et ça va peut-être faire
Et c'est
beaucoup pour un
reparti pour une
épisode.
liste. T'en es à peu près à combien de livres dans ton corpus pour l'instant?
Alors, en fait, j'ai un corpus secondaire pour faire plein de comparaisons et essayer d'être exhaustive et un corpus primaire sur lequel je vais travailler en
Ouais.
détail. Le
D'accord.
corpus secondaire, c'est globalement tout ce que j'ai lu jusqu'ici avec des sorcières et qui peut m'intéresser pour les comparaisons ou autres. Je n'ai
D'accord.
pas vérifié récemment parce que je suis à la bourre sur mon appli de biblio, mais une centaine de livres,
Ok.
une centaine de romans. Ça commence à faire un sacré sac à emmener avec moi.
Ouais.
Et non, pour le corpus primaire, je vais me restreindre à une dizaine.
Ok.
Et quand je dis une dizaine, c'est que je considère que les 6 tomes de Dune ne sont qu'un livre. J'ai
Ah.
triché. Donc voilà. Et je n'ai pas fini de lire tout ce que je veux lire. Mais c'est chouette, ça fait
Mais
beaucoup de
est-ce qu'on
moments de
finit un
lecture en
jour de lire ce qu'on
perspective.
veut lire?
Non, je ne pense pas. Et puis j'ai un corpus ouvert, donc c'est à nos jours, mais nos jours évoluent
Ça
avec le temps.
avance tous les jours. Toutes
Donc
les
ça, c'est
nouvelles
chouette.
publications.
Je ne serai jamais enfermée dans mon campus.
En tout cas, bah, bon courage pour la suite de tes recherches. Et puis, donc, on va suivre ça attentivement.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçue aujourd'hui. J'étais ravie de pouvoir discuter avec toi en live. Parce que quand je vous écoute, si je vous réponds, vous ne me répondez pas.
C'est ce qu'on nous dit souvent. Il y a beaucoup de gens apparemment qui répondent à nos blagues. Et j'aime beaucoup cette idée.
Mais non, c'était vraiment très chouette de pouvoir discuter avec toi. Et puis peut-être à bientôt pour d'autres
Bon.
recommandations lecture sur les réseaux.
Oui. Et du coup, les petites mentions obligatoires de fin d'épisode, vous pouvez nous retrouver sur vos plateformes de podcast favorites. Et aussi sur les réseaux sociaux, principalement Instagram. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages pour répondre à toutes les questions qu'on a ouvertes dans cet épisode. On attend avec impatience. Et je remercie aussi Moon and Sun pour la musique et Craig, notre ingé son. N'oubliez pas
N'oubliez
de
pas de
rester
rester
magique.
magique.